Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La contraception, le préservatif, le stérilet, autant de sujets difficiles à aborder chez les chrétiens sans provoquer immédiatement de vives polémiques, à tel point que l'on a parfois l'impression qu'il existe un réel divorce entre l'Église et les couples chrétiens qui se jugent assez grands pour décider de leur fécondité ou qui font comme ils peuvent. Un texte est venu mettre de l'ordre ou semer la zizanie ou mener vite lettre encyclique du pape Paul VI dont on fête les 40 ans de la publication cette année. L'occasion de se pencher sur ce texte et de tenter de comprendre la vision que l'Église essaie de partager sur l'amour humain. Les AFC Faites l'amour, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, et mes invités me disent que oui, c'est les 50 ans pardon, de la publication de ce texte, c'était donc en 1968, 25 juillet 1968, autant pour moi. Autour du plateau, pour parler donc de d'humanité, de la vision de l'amour humain de l'Église et des AFC, et d'une prochaine rencontre qui a lieu le 13 octobre prochain, journée colloque, sur le thème « Les chrétiens vivent d'amour et de sexualité ». Odile Blanc, qui est présidente des AFC Coteau en région toulousaine, bonjour.
Bonjour.
Voilà, parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Catherine Flores, adhérente aux AFC, pareil, la Haute-Garonne, qui est sage-femme et mère de famille, bonjour.
Bonjour.
Et Marina Podeno, qui est consacrée à la communauté du Chemin Neuf et qui nous rejoindra un petit peu plus tard, qui donnera la veille de cette journée un spectacle avec d'autres intitulé « Le Cantique des Cantiques », voilà, qui est consacré et artiste. Et Michel Martin-Prével, qui est prêtre de la communauté des Béatitudes, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors on va commencer donc par parler d'humanité. La journée colloque s'est organisée autour de cet anniversaire des 50 ans de la publication de ce texte. Voilà, l'idée n'est pas de jeter de l'huile sur le feu ou de ne parler que de ça à l'occasion de cette journée, mais c'est en tout cas le prétexte de cette journée, donc difficile de ne pas en parler. Il y a eu un certain nombre de rassemblements cet été. Dans la presse, on a pu lire des déclarations, entre autres du cardinal Sarah, sur cette lettre ancienne. Comment vous la présenteriez, Michel Martin-Prével, ce texte qui, peut-être pour les jeunes générations, ne dit plus grand-chose et qui, pour la vôtre, a été un texte extrêmement marquant. Quelle présentation générale, on va dire, pour commencer.
De fait, c'est un texte qui a été très marqué parce que le contexte était tout à fait... Vous savez que c'est juste 2 mois après mai 68, quand on sait ce qui s'est passé en mai 68. On pouvait peut-être faire pas plus mal pour sortir un texte comme ça, parce que c'est un texte qu'on a tout de suite compris comme étant un non à la pilule, donc une sorte de non au progrès. Et beaucoup de catholiques ont été assez blessés par ce texte, en pensant qu'ils avaient comme une intimité qui était comme un peu chamboulée et peut-être même un peu violée par l'intrusion de l'institution Église qui disait mais qu'est-ce que vient faire l'Église là-dedans. Or c'est un sujet évidemment éminemment important et c'est parce que 50 ans après on s'aperçoit que ça tout à fait au cœur de ce que peut dire l'Évangile à des couples et à des familles que ça reste un texte qui était parfaitement légitime. Même si ensuite, effectivement, il y a eu un débat sur les conclusions que Paul VI a pu faire, pas simplement parce que c'est un non à la pilule, mais c'est une invitation à monter un peu le débat et à voir de beaucoup plus haut. C'est pour ça qu'on parle d'un texte prophétique, que voir beaucoup plus haut, que ça vise en réalité quelque chose de très essentiel dans l'amour humain, la finalité du mariage et bien sûr la fécondité. Donc c'est un texte tout à fait important, assez court d'ailleurs, qui je crois souvent a été peu lu ou même mal lu, parce que comme d'habitude, on ne retient qu'une phrase ou deux. Le contexte dans lequel ce
alors
texte
juste,
est
peut-être,
sorti...
Peut-être, donc c'est difficile de citer des passages, parce qu'il est court, mais pour une émission de radio, il reste relativement long, là, ça fait quand même une vingtaine de pages. Il ne parle pas que, comment dire, il contextualise. On a souvent en fait la remarque suivante, on a dit que Jean-Paul II avait déployé derrière toute sa théologie du corps, on en parlera, comme pour mettre en perspective en fait fait ce que Paul VI avait essayé de dire. Néanmoins, quand on lit la lettre encyclique, qui est sur le mariage et la régulation des naissances, il y a quand même une contextualisation de l'amour et l'Église présente et déploie la vision qu'elle a d'un amour total et responsable. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer cette présentation générale?
Vous voyez, ce décalage entre ce que les gens avaient dans le cœur à cette époque-là, c'était l'angoisse de la surpopulation ces années-là. On voyait tout ce tiers-monde qui se développait énormément. Il y avait donc cette angoisse de la surpopulation, cette mentalité malthusienne dont on est depuis revenu, vous le voyez bien. Il y avait aussi une sorte d'égoïsme qui commençait un peu à s'installer dans les mœurs, y compris les mœurs conjugales, qui faisait qu'on pensait beaucoup moins à cette nécessité, cette orientation un peu centrale de la fécondité, de la procréation. Et puis il y a aussi ce progrès scientifique qui, à cette époque-là, était quand même merveilleux, parce que forcément, la pilule, les moyens chimiques, etc., tous ces moyens apportés par les biotechnologies qui vont se développer après et dont on ne va faire que plus tard un peu un examen plus sérieux. C'est le contexte actuel. Mais à cette époque-là, c'était merveilleux. Et ce merveilleux a été comme freiné tout d'un coup par une sorte de mise en garde de l'Église qui invitait, je le répète, à voir de beaucoup plus haut cette question-là.
Alors, je suis tombé sur un article du journal La Croix, « Humanévité, une encyclique prophétique ou préhistorique ». C'était en juillet dernier. Article assez contrasté. Et alors, je suis tombé sur des propos d'une certaine Monique Beaujard, ancienne directrice du Service national Famille et Société de la Conférence d'évêques de France, qui dit en substance que pour elle, ce texte est daté, qu'il est très infantilisant, etc. Est-ce que le prêtre que vous êtes a eu l'impression, une partie de sa vie pastorale, de se battre contre des gens qui, à l'intérieur de l'Église, caricaturer ce texte?
Moi, je crois que c'est, faut pas en faire une caricature. Je lis un peu différemment parce que je vois que des jeunes aujourd'hui sont très tracassés de cette question de la finalité de la sexualité. Donc, ils prennent pas ça du tout comme l'ont fait ma génération, comme une gêne, quelque chose dont l'Église se mêle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toute la richesse du cycle féminin qui est en train d'être redécouvert. Et donc ce divorce qui avait pu se faire entre les deux fins du mariage, l'union et la procréation, que Jean-Paul II très fortement et le pape François aussi remettent dans une perspective de complémentarité, l'union des époux mais aussi la procréation. Et le fond de ce texte d'Humanévité, c'était de dire qu'il y avait une relation entre l'union des époux et cette finalité qui donnait à cette union, qui n'est pas unique, puisque la régulation naturelle des naissances, comme l'en parle l'Église, c'est avoir des périodes de fécondité et des périodes d'infécondité qui sont toutes les deux au service du couple, soit parce qu'on veut des enfants, soit parce qu'on n'est pas le moment d'en avoir. Et donc il y a quelque chose de très sage que l'Église appelle la paternité et la maternité responsable. C'est Jean-Paul II qui va développer
avant,
ça.
Mais avant qu'on parle de la paternité et la maternité responsable, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu, parce que là vous rentrez donc tout de suite presque tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que l'Église et donc Paul VI, à l'occasion de ce texte, et c'est dans le fond ce qui n'a pas été compris et ce qui a essayé de faire comprendre Jean-Paul II, invite à ce que les chrétiens l'union conjugale et la possibilité de la fécondité. Pourquoi est-ce aussi important pour l'Église et essentiel à l'amour humain?
Parce que l'amour humain est quelque chose qui est total, qui est même exclusif. Et comme on le dit dans le langage chrétien, dans la chasteté, c'est-à-dire dans le respect du corps de l'autre. Or, l'utilisation un peu massive des méthodes artificielles de contraception ont fait, et c'est ce que l'on constate aujourd'hui, et les jeunes en sont très conscients, que la femme devient un peu trop un objet si elle n'a plus ce moyen naturel d'être tantôt disponible à la génération et tantôt non. Et donc ce balancement qui est voulu par la nature favorise justement une sorte de maîtrise un peu de cette fécondité pour qu'elle ne soit pas, que la femme ne soit pas un objet et que l'homme n'ait pas tout simplement à satisfaire un plaisir sans aucune contrainte. Alors la contrainte, évidemment, c'était pas dans la mentalité de mai 68, et ça l'est peut-être pas en peut-être un peu plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui est attaché à cet amour qui se construit dans un certain effort, un certain combat. Et c'est pour ça que l'Église parle d'une maîtrise de soi, d'une chasteté qui est en fait qui est au service du bonheur des époux.
Alors quand on parle après de paternité et de maternité responsable, qu'est-ce que l'Église entend par là ?
bien c'est qu'il faut avoir des enfants, pas simplement parce qu'ils doivent naître et dire « voilà, merci Seigneur, tu nous as donné des enfants », mais il s'agit de les élever, de les construire, et donc être responsable parce qu'on a des enfants, pas exactement en les choisissant, en les recevant, mais en les recevant, en étant conscient qu'ensuite ils nous sont confiés. Et donc c'est aussi toute une éducation qui est à assurer pour l'enfant. Voilà pourquoi on ne peut pas d'entrée de jeu dire que je peux avoir n'importe quoi comme nombre d'enfants. Il faut que ce soit adapté à mes capacités humaines, physiques, etc.
Alors on reviendra à quelques points de ces textes, de ce texte. J'aimerais que l'on parle un peu du contexte dans lequel donc il a été. Enfin vous l'avez dit, c'était donc en tout cas pour la France autour de mai 68. Mais le contexte de son écriture, parce que alors il s'agit pas de faire une mission, on va dire d'histoire de ce texte. Pardon, mais un certain nombre de commissions s'étaient réunies pour réfléchir à cette question. Et semble-t-il, en tout cas j'ai vu ça dans un article du journal La Croix qui est signé de Nicolas Senez, cette commission avait fini par conclure que la contraception artificielle n'était pas intrinsèquement mauvaise. Et puis du coup le pape Paul VI avait redemandé un autre travail, et à nouveau semble-t-il dans cette commission 18 avaient s'étaient montés favorables à une ouverture à la contraception artificielle et 7 contre, dont donc Carole Wojtyla. Donc ce qui a été peut-être, ce qui n'a pas aidé à l'époque, c'est que certains ont eu l'impression qu'en fait Paul VI avait pris une position peut-être un peu solitaire contre l'avis même de ses pairs. Est-ce que vous expliquez un peu ces détails de l'histoire?
C'est pas tout à fait solitaire, parce que de fait il y a eu plusieurs commissions. Il y a eu le synode des évêques en 67 qui a très bien parlé de tout ça, donc c'est quand même un certain nombre de personnes autour de Paul VI. C'est vrai qu'au départ il y a eu peut-être d'une façon un peu démocratique plus d'évêques qui penchaient pour admettre cette contraception et moins pour être contre. Mais il n'empêche que c'est là qu'est l'intervention de l'Esprit Saint, si vous voulez. C'est que effectivement le pape a senti que c'était une question trop délicate pour qu'elle soit comme influencée, et les pères du synode étaient influencés, bien sûr, influencés par le contexte de l'époque. Et je crois qu'il a eu raison, ça on ne peut le dire que 50 ans après, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte. On a une relation notamment à cette espèce de toute-puissance de la science qui vient comme ça au service de l'amour humain, en inventant la pilule, après il y a eu la pilule du lendemain, etc. Cette espèce de confiance absolue qu'on a fait dans ces moyens-là, aujourd'hui, on voit bien, et c'est très fort chez les jeunes, qu'il n'y a pas, non pas de la méfiance, mais en tout cas... Une réflexion beaucoup plus mûre sur cette invasion de la chimie dans le corps d'une femme, dont on peut quand même penser, à l'heure d'une écologie et d'un environnement dont on sait qu'il n'est pas toujours pour le bonheur de l'homme, on peut penser quand même que mettre de la chimie d'une façon un peu violente dans toutes ces hormones féminines, ça n'a pas forcément, ça peut avoir quand même des conséquences.
C'est ce que rappelait entre autres l'article du journal La Croix, précisant que de plus en plus de femmes s'interrogeaient.
Aujourd'hui, la pilule se prend de moins en moins parce qu'on est conscient qu'il y a des effets secondaires qui sont absolument massifs. Et ça, c'est quelque chose de assez naturel. Alors, le rythme naturel du corps, les écologistes qui n'ont pas la foi sont les premiers à s'intéresser aux méthodes naturelles de régulation des naissances.
J'ai noté un passage dans Humaine et Vitae. Cette loi requiert une sérieuse application et beaucoup d'efforts individuels, familiaux et sociaux. On peut même dire qu'elle ne serait pas observable sans l'aide de Dieu qui soutient et fortifie la bonne volonté des hommes. Voilà, le pape Paul VI ne cache pas qu'en même temps ça demande aux époux un réel effort. Est-ce à dire qu'on ne peut le vivre que par le soutien de la grâce, comme le dit cette encyclique? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors la grâce bien sûr, mais pas seulement, parce que de fait dans la pratique, moi j'accompagne beaucoup de couples, c'est pas du tout évident pour certains couples d'effectivement vivre cela. Donc bien sûr qu'il y a une sorte d'idéal, de quelque chose qui peut marcher pour certaines personnes et un peu moins pour d'autres. Mais c'est une sorte d'idéal auquel on n'arrive pas complètement. Et pour ça, il faut évidemment avoir une certaine miséricorde. Il ne s'agit pas d'être dans le tout ou rien, certainement pas. Et c'est ça qui est pastoral, c'est de pouvoir s'adapter à des cas qui sont particuliers et qui demeurent quelquefois, sur lesquels il faut en tout cas avoir peut-être d'autres positions. Mais globalement, je crois que c'est important, c'est le travail de l'Église, de rappeler un certain idéal. Et dans la loi de gradualité, comme en parle Jean-Paul II, c'est s'acheminer le plus possible vers cet idéal qui, de fait, est là pour construire le bonheur du couple et certainement pas pour mettre des bâtons dans les roues.
Vous disiez, donc, vous accompagnez de fait beaucoup de couples, vous êtes réputé pour ça. voilà, des couples, on va dire, y compris des couples en difficulté. Vous diriez qu'aujourd'hui encore, peut-être pour finir, avant qu'on fasse une première pause, une des principales difficultés quant à la réception du discours de l'Église pour les couples, d'où vient-elle en fait? D'un manque de compréhension. On n'a pas parlé, par exemple, de la théologie du corps, qui donne toute cette intelligence de l'amour humain. Est-ce que c'est dans le fond une espèce d'incompréhension qui tient à une ignorance, ou qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Il y a malheureusement encore beaucoup d'ignorance, alors que les moyens aujourd'hui permettent de se renseigner beaucoup plus. Il y a une ignorance sur ce qu'on a appelé la théologie du corps de Jean-Paul II, c'est-à-dire la place du corps par rapport à la vie de l'esprit, la place aussi de la sexualité par rapport à l'amour, comment la sexualité est ordonnée à l'amour et qu'il faut bien relier les deux et surtout pas les séparer. Et la contraception artificielle sépare beaucoup trop l'amour de la sexualité. Et cette unité qui est à retrouver, ça, tout le monde s'y intéresse, et on n'a jamais autant parlé de sexe. Et on a raison d'en parler, c'est pour ça que les AFC insistent là-dessus, parce qu'il faut redécouvrir, et c'est à enseigner beaucoup du côté des jeunes, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la sexualité.
On va faire une première pause. Je rappelle cette journée, donc journée colloque des AFC, donc c'est le 13 octobre prochain à Toulouse, salle Castelbous, pour ceux qui nous quitteraient. Les chrétiens vivent d'amour et de sexualité. On se retrouve tout de suite après pour parler entre autres des AFC. Voilà, ça va être l'occasion peut-être de découvrir ou redécouvrir cette association nationale et locale, son but, ses actions et l'intérêt de les rejoindre. Et puis on finira cette émission en ayant par téléphone cette artiste qui est elle même consacré, qui nous dira peut-être sa vision sur le discours de l'Église quant à l'amour humain, même si elle est consacrée, qui nous parlera de ce spectacle qui sera donné la veille sur le Cantique des Cantiques.
Gente sprisa ne trisa ne zitara Gode ad gode ad seram Cibile terra, cibile terra Camina festo cada ad ecclesia Precadis domini, doda precadia, doda precadia Domina festo cadat ecclesia, precadis domini, laudam precadia. Cadeat, cadeat seam, civile terra, cadeat gentes, risalet, risalet citara. Cadeat, cadeat seam, jubile terra, jubile terra. Thank you.
Emmanuel Pella.
Les AFC Faites l'amour, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, à l'occasion donc d'une prochaine journée colloque le 13 octobre prochain à Toulouse. Les chrétiens vivent d'amour et de sexualité, auxquels évidemment sont invités tous ceux même qui n'habitent pas cette grande ville. Autour du plateau, pour parler donc des AFC et de la vision de l'Église quant à l'amour humain, Odile Blanc, présidente des AFC des Coteaux, donc dans la région toulousaine, Catherine Flores, qui est adhérente des AFC, sage-femme et mère de famille, Marina Podeno, consacré de la communauté du Chemin Neuf, qui nous rejoindra à la fin de cette émission, et Michel Martin Prével, prêtre de la communauté des Béatitudes. Alors, les AFC, très connus par certains, moins connus par d'autres, en tout cas, certainement, vous considérez que vous manquez toujours d'adhérents, ou en tout cas que beaucoup d'autres personnes pourraient vous rejoindre. Comment vous présenteriez, Odile Blanc, cette grande association nationale? Quel est son but?
Alors, les AFC, c'est une association catholique de famille. C'est un cadre d'engagement et d'entraide offert à tous ceux qui veulent agir dans la société, au service de la famille, à la lumière de l'enseignement de l'Église catholique. Alors, les AFC sont présentes sur tout le territoire français, y compris dans les DOM-TOM, et représentent environ 35 000 familles adhérentes,
Ce qui fait à peu près 150 000 personnes.
Ouais. Ce qui fait pas beaucoup de monde. on est regroupé national, régional, départemental, en fédération et association locale. Mais la mission des associations familiales catholiques, c'est de valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme un chemin de bonheur et d'épanouissement de la personne. Doit discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y répondre par des services, des rencontres, formations. Mais aussi, on doit être une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et politiques, donc au niveau national, pour que le choix de la famille et l'accueil de l'enfant soient facilités.
D'accord. Donc, en fait, pour résumer, vous êtes donc une des grandes associations familiales qui existent en France, mais votre particularité, c'est quoi? C'est de soutenir et d'encourager les familles catholiques et de les représenter, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait résumer peut-être votre
Tout
mission?
Tout à fait, oui. On peut les résumer comme ça. Le but, nous avons en quelque sorte un pied dans l'Église, puisqu'on est association catholique, un pied sur le perron de la mairie, on pourrait dire, puisqu'on a des représentations au niveau national auprès des tas de mouvements.
Donc auprès, entre autres, des parlementaires, des ministres, et puis on peut imaginer aussi des élus locaux. Comment est-ce que vous compléteriez cette courte présentation, Michel Martin Prével?
Je dirais que ce n'est pas la défense des familles catholiques, c'est une défense catholique de la famille en général. S'ouvre à autre chose que des familles catholiques, parce qu'il y a dans le cœur de toute famille ce désir que vous avez rappelé de bonheur, d'équilibrer les choses entre les parents, les enfants. C'est pour ça que les AFC se sont soucieuses, en tout cas, des questions aussi d'éducation, et en particulier d'éducation affective et sexuelle avec les forums Waouh. Donc c'est l'ensemble des questions de la famille qui rejoignent toutes les familles.
Voilà, donc il y a une prétention à l'universalité, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours tout à fait audible aujourd'hui en France,
Absolument.
Est-ce que vous pourriez, donc parmi vos multiples actions, donc internationales, nationales, il y a parfois des actions en justice dont on a récemment parlé, en tout cas certains l'ont peut-être lu ça dans la presse, est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux illustrations?
Il y a eu, au niveau national, bien sûr, un recours contre le site de rencontre extra-conjugale Glendon. Vous en avez fait l'écho. Il y a eu aussi le recours au Conseil d'État contre la ligne Azur qui sévissait dans les écoles.
Donc
notamment.
C'était une ligne qui était proposée aux élèves pour poser des questions quant à leur orientation sexuelle,
mais c'était vraiment orienté.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les AFC, par exemple, avaient intenté un recours? Qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce que vous considériez qui n'était pas normal?
Pour les AFC, l'éducation par les parents est primordiale. Donc ce n'est pas à l'école d'aller influencer les jeunes sur leur orientation tant que les parents n'ont pas discuté avec les enfants Et c'est pour ça qu'on promeut Teen Star, Cyclo Show, toutes ces actions d'éducation affective.
Donc il y avait eu un recours et vous aviez en l'occurrence obtenu quelque chose, non ? C'était...
Eh bien, la ligne Azur a été fermée, ce site. Il y a eu des tas d'interventions, notamment fermeture d'un sex shop dans le cadre de la protection des mineurs.
Mais... Voilà, donc ça c'est pour les actions nationales. J'en citerai quelques autres. Donc il y a, on trouve ça sur la site, le site donc national des AFC. Il y a quelques propositions pour reconstruire la politique familiale. Preuve que donc c'est une action d'ampleur et pas seulement une action locale. Je citerai juste quelques exemples. Création de complément familial de retraite par capitalisation, une politique du logement qui soit plus favorable aux familles, le libre choix des familles pour les congés parentaux. J'ai découvert ça. Possibilité d'opter pour une durée longue ou courte, ou alors d'en garder un morceau pour l'adolescence quand à la maison ça chauffe, limiter le travail conjugal, bref, de multiples actions nationales. Comment ça se décline, on va dire, localement, Odile Blanc, à l'échelle ne serait-ce que de la Haute-Garonne? À quoi ressemble la présence des AFC? Quelles actions sur le terrain? On entend souvent parler, par exemple, des chantiers éducation. Voilà, quelles sont les deux, trois grandes actions de terrain qu'on le retrouve un peu partout en France, y compris dans la Haute-Garonne?
Les chantiers éducation, vous avez raison, c'est un point phare.
Alors expliquez ce que c'est.
C'est des groupes de mamans qui échangent sur des thèmes choisis et qui ont été préparés à l'avance à la maison avec le conjoint. Donc c'est vraiment la famille qui prend part, même si le papa n'est pas présent.
Donc on se retrouve et on discute, c'est ça ? On discute, on partage, on se donne des conseils.
Voilà, conseils, il y a des animateurs qui sont formés, qui aident les mamans à réfléchir, et le témoignage des uns peut aider, et surtout la fraternité qui existe dans ces groupes.
Donc ça, il y a des chantiers d'éducation un peu partout en France, y compris donc en Haute-Garonne.
Alors en Haute-Garonne, on en a 6. Il y a des mamans encore qui demandent à adhérer.
Dans la Garonne, donc on peut imaginer un peu, ailleurs en Midi-Pyrénées. Autre exemple d'action locale.
Alors, il y a le pèlerinage des mères des familles. Le Père Michel revient justement du pèlerinage qui a eu lieu le week-end dernier sur la Haute-Garonne.
120 mamans.
Voilà, formule à succès qui se duplique aussi un peu partout en France.
Regonflé pour leur année.
Alors, représenter peut-être aussi ce que c'est que ce pèlerinage, tout le monde ne connaît pas.
C'est tout simplement dans un week-end, on marche, on a des topos et on partage. On a aussi l'occasion d'avoir des messes, des veillées, de se confesser. Et donc, ça refait les forces vives vraiment de toutes ces mamans qui ont envie de vivre l'évangile au milieu de leur famille.
Voilà, ça c'est un autre exemple. Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme...
Bien sûr, la fête des familles que notre président de fédération, Jérôme Cléry, a mis en place depuis 8 ans maintenant sur Toulouse.
Même question, qu'est-ce que c'est la fête des familles?
La fête des familles, c'est toujours le premier dimanche d'octobre. Alors c'est une après-midi festive, entièrement gratuite, qui est organisée par les familles, pour les familles, avec des jeux collaboratifs, intergénérationnels, un goûter, enfin, de manière à... Le thème, c'est dire merci à la famille.
Donc, il faut expliquer que c'est une journée aussi qui accueille, on va dire, différentes réalités familiales. Ce n'est pas une journée qui est organisée que par les AFC. Il y a d'autres associations invitées.
Alors, il y a d'autres associations qui sont venues aider, un peu le chapeau de l'UNAF maintenant, mais il y a une association de musulmanes, de familles musulmanes, bien sûr les familles protestantes qui sont avec nous. Il y a plusieurs associations qui se sont regroupées pour faire un collectif.
Alors Catherine Flores, vous êtes jeune adhérente des AFC, donc vous êtes sage-femme, mère de famille. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de rejoindre les AFC? Voilà, en quelles circonstances ça s'est fait et qu'est-ce qui a été le déclic?
Eh ben, après le départ de nos enfants de la maison familiale et quelques problèmes de santé, j'ai ressenti le besoin de m'investir dans des causes qui me tiennent à cœur. Et mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants, catholique pratiquante, je suis tout particulièrement attirée par tout ce qui concerne la santé, de par ma profession, et la famille, car pour moi, la famille est la cellule vitale de la société. Elle en demeure...
Ah Catherine, excusez-moi, mais c'est une émission de radio, même si vous avez préparé, il faut que vous me parliez à moi, vous ne pouvez pas lire vos papiers. Donc vous essayez de vous aider de vos papiers, mais de m'adresser la parole. Donc vous avez choisi donc de rentrer.
Oui, de rentrer, parce que pour moi, la famille est une chose essentielle dans ma vie. J'estime que c'est l'épanouissement de l'homme et de la femme à travers ce lien indissoluble qu'est le mariage. Et donc j'avais envie d'œuvrer en faveur de tout ce qui touche à la famille.
Vous en aviez déjà entendu parler des AFC?
J'en avais entendu parler, mais très vaguement. Et puis vous savez, prise entre la vie professionnelle, la vie familiale, 4 enfants, enfin beaucoup de choses. Je ne m'y étais pas franchement attardée auparavant.
Et en quelles circonstances ça s'est fait? Alors tout d'un coup, vous avez croisé quelqu'un?
Et là, oui, vous le disais, non. Enfin, c'est, voilà, mes enfants étaient partis de la maison était vidée.
Mais comment vous avez eu l'idée des AFC? Vous aviez une amie?
Oui. C'est une amie qui me connaît bien et qui savait que je cherchais à m'investir, qui m'a dit, tu devrais adhérer aux AFC.
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé aux AFC qui vous a après convaincu que votre choix était bon?
D'abord, j'ai trouvé des gens très accueillants, les responsables très accueillants, qui m'ont de suite intégrée très gentiment, qui m'ont présenté toutes les actions qui se font localement, bien sûr. Et je me suis rendu compte très vite que j'étais totalement en adéquation avec ce qu'ils proposaient. J'ai suivi par ailleurs la formation qui s'appelle Cap Famille, qui se fait sur 48 heures, un week-end, où on nous explique tout le fonctionnement des AFC, tout ce que les AFC proposent. Et ça m'a beaucoup aidé ensuite à faire les choix que j'ai pu faire et les choix auxquels
je
m'attendais. Par exemple, les AFC ont l'agrément santé auprès de l'ARS. Et comme moi, j'étais bien sûr très impliquée dans ce domaine de santé, j'ai pu postuler auprès de l'ARS pour être représentante des usagers dans 2 établissements de santé de la région, une clinique polyvalente et un centre d'enfants handicapés. Et là, disons que les représentants d'usagers veillent à la bonne expression de l'attente, des attentes et des besoins des patients, veillent à la qualité des soins et à la sécurité des patients et assistent aux commissions des usagers, ce qui est, enfin, donc j'ai été nommée assez rapidement dans ces établissements. Et j'ai commencé ma mission et je dois dire que ça me plaît énormément.
Est-ce que vous vous êtes dit que rétrospectivement, vous auriez été bien inspiré d'essayer de rencontrer les AFC ou d'y adhérer avant, quand vous étiez, quand vous aviez vos enfants à la maison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, oui, ça je regrette de ne pas en avoir entendu parler davantage avant, parce que effectivement, quand on a des enfants jeunes, des enfants après qui deviennent ados, on est confronté à des problèmes au quotidien. Des fois, on est un peu isolé, surtout quand on est à la maison avec des enfants qui, voilà, on ne sait pas trop quoi faire dans tel ou tel cas. Et j'aurais connu, par exemple, les chantiers éducation. J'avoue que ça m'aurait bien aidé à l'époque. Bon, maintenant, j'ai vu qu'il y avait des chantiers éducation pour grands-parents.
Donc tout n'est pas perdu.
Peut-être tout n'est pas perdu.
Pour finir, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, justement, entendent souvent parler des AFC, mais ne sautent pas le pas? Parce que c'est vrai que des familles, on va dire, catholiques, il y en a quand même plus que 35 000 en France. Hein, et donc, peu, en fait, vont jusqu'à adhérer. Alors, pourquoi? Certainement qu'il faudrait faire une enquête d'opinion précise pour savoir. Mais qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de sauter le pas? Est-ce que c'est juste faire un chèque pour soutenir une cause, ou est-ce bien plus que cela?
Pas du tout. Je dirais qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à sauter le pas, parce que qu'ils aient un peu de temps libre, un peu plus de temps libre, c'est une merveilleuse chose que de rejoindre toutes ces personnes. Je dois dire, c'est une grande famille. Je peux dire, c'est une grande famille où j'ai trouvé beaucoup de gentillesse, beaucoup, enfin, de l'amitié aussi. Et puis, on peut, voilà, qu'on ait un peu de temps à donner, plus de temps à donner. On peut s'investir, on peut aussi participer à tout, comme je disais, Odile, les fêtes de famille, la quête mère-enfant, au niveau paroissial aussi, on peut faire promouvoir les AFC, on peut participer à des bourses aux vêtements, bourses aux jouets, on est tenu au courant par mail régulièrement de tout ce qui est proposé dans la région, point de vue temps fort, conférences. Je pense à une conférence à laquelle j'ai été au printemps sur les addictions, par exemple sur la paroisse du Christ roi.
Oui, on a reçu Pauline Deveau et sur les addictions à la pornographie.
Pauline Deveau, enfin, c'est vraiment, enfin, et tout un tas de temps fort. Tout ne vient pas à l'idée dans l'instant, mais je dois dire qu'il y a toujours beaucoup de choses proposées. Et j'ai pu aussi, au sein de l'UDAF, participer, grâce aussi à mon adhésion aux AFC, des ateliers sur les jeunes et les écrans, ce qui est beaucoup à la mode actuellement.
Oui, et c'est d'ailleurs un des travaux, semble-t-il, qui a été fait au niveau national sur les jeunes et les écrans. Il y a une enquête qui est sortie avec quelques chiffres clés. J'avoue qu'en tombant dessus, je m'en doutais, mais 99% des 18-24 ans possèdent un smartphone. 34% chez les 13-19 ans et les 1-6 ans passent 4h37 par semaine sur Internet, les 7-12 ans plus de 6 heures et les 13-19 ans plus de 15 heures. Voilà, donc ça, ça vaut le coup de lire ces études et d'en discuter. Mm-hmm. J'avais une question, après je redonnerai la parole à Odile Blanc avant qu'on fasse une pause. Il y a quelque chose d'étrange autour des AFC, je me suis toujours dit ça, Michel Martin-Prével, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'on a l'impression qu'on touche du doigt presque un peu le complexe des catholiques en France, les AFC. C'est-à-dire que on est fier, on va dire intimement, d'être catholique, mais on saute pas le pas de l'afficher publiquement ou en tout cas de se montrer solidaire des autres familles. Et donc il y a, je sais que les AFC travaillent beaucoup à essayer de changer leur image auprès de la population française et parfois même des catholiques. Il y a une espèce de complexe comme ça d'infériorité, comme si les catholiques avaient une mauvaise image d'eux et du coup ils osent pas en fait aller aux AFC. C'est un peu.
Bah, je pense un peu la conséquence de ce qu'on a appelé la mentalité de l'enfouissement qui s'est avéré pour une part nécessaire pour sortir d'une église triomphaliste et qui a la solution à tout, ça c'est vrai, mais par ailleurs aujourd'hui on est dans cette autre dimension de comprendre que l'évangile est une véritable réserve de solutions et d'un bel idéal à retrouver pour le couple et la famille. Donc aujourd'hui on comprend mieux que nous avons quelque chose à dire à la société, ce qui n'est certainement pas imposer nos idées.
Allez, on va faire une première pause et puis on parlera un peu plus de la journée du 13 en même temps qu'on donnera la parole à Marina, donc cette artiste et consacrée de la communauté du Chemin Neuf qui va nous rejoindre à la fin de l'émission. Pour ceux qui nous quittent maintenant, cette journée colloque, c'est donc le 13 octobre prochain, salle Castelboue. Voilà, en région toulousaine, les chrétiens vivent d'amour et de sexualité.
Présence à Moissac 93.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les AFC Faites l'amour, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour pour que ceux qui par hasard nous rejoindraient en cours de route autour du plateau. Odile Blanc, présidente locale des AFC en Haute-Garonne, enfin en tout cas d'une partie, Catherine Flores qui est une récente adhérente, sage-femme et mère de famille de 4 enfants, Marina Podeno consacrée à la communauté du Chemin Neuf qui nous rejoint, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes en direct depuis l'Espagne, si j'ai bien compris, le père Michel Martin Prével, prêtre de la communauté des Béatitudes. Marina, avant de vous donner la parole, on va juste redire 2-3 choses, parce qu'en fait, on n'a pas pour l'instant parlé précisément de cette journée. Donc, journée colloque du 13 octobre prochain, sur le thème « Les chrétiens vivent d'amour et de sexualité ». Voilà, on voit un beau couple en train de s'embrasser avec sensualité. Et donc, la veille, un spectacle, on en parlera après, le Cantique des Cantiques. Pourquoi cette journée, Odile Blanc, comment vous la présenteriez en quelques phrases ?
Depuis plusieurs années, on s'est tourné vers l'éveil à l'affectivité. On a organisé Grammaire de la vie il y a 2 ans, le Forum Waou l'année dernière, et on voulait revenir sur ces sujets qui pour nous sont indispensables parce qu'il est nécessaire de réévangéliser les jeunes et les moins jeunes, en leur donnant un regard positif sur leur sexualité et en la replaçant dans le plan d'amour de Dieu.
Alors Marina, j'avais une question là-dessus. Vous êtes donc consacrée au sein donc de la communauté du Chemin Neuf, en plus d'être artiste, ou alors avant d'être artiste, je ne sais pas. On a essayé rapidement, à l'occasion donc des 50 ans de la publication d'Humanae Vitae, avec le père Michel Martin Prével, de redire quelle était la vision de l'Église sur l'amour humain et la sexualité. Comment est-ce qu'une consacrée reçoit ce discours de l'Église? Je ne sais pas, est-ce que vous auriez une première réaction et commentaire?
Alors oui, moi j'ai la chance d'être donc sœur consacrée au Chemin Neuf, où nous vivons hommes et femmes, souvent dans des fraternités partagées, des fraternités communes. Et je trouve personnellement que l'encyclique et la théologie du corps, donc de laquelle nous vivons dans l'Église, est pleine de vérité, de réalisme, de sagesse. En fait, ça me rejoint dans cette vie commune partagée où, en fait, on est des corps. On est des corps qui vivent ensemble et on est appelé à des relations, en fait, à la fois de dons quotidiens à travers le service, la mission, la prière, etc. Et en même temps, donc ça veut dire tendresse et respect, tout simplement. Il y a une sorte de réalisme à vivre ensemble à la fois en étant engagé tout entier et en même temps dans une distance qui permet de pas mettre la main sur l'autre, de le respecter. Au fond, la chasteté, je dirais, c'est quelque chose qui est pour les consacrés, évidemment, mais qui est aussi pour les couples. Parce que ce n'est pas la continence, la chasteté, c'est cette espèce de qualité de relation où on est à la fois tout entier, présent à l'autre, mais dans un immense respect, une distance nécessaire.
Alors peut-être, voilà. Est-ce que vous pouvez aussi contribuer à illustrer la chose suivante, c'est qu'en fait, quand l'Église parle de sexualité, elle invite à comprendre la sexualité de manière plus large, puisque même une consacrée comme vous a une sexualité. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas forcément tout de suite?
Alors, j'espère que je vais être claire. Enfin, ce que je comprends et ce que je vis, moi, c'est que, par exemple, la tendresse, pour moi, la tendresse, le regard posé sur l'autre, l'humour, l'acceptation de ses limites, la douceur, tout ça, c'est de l'ordre de la sexualité. La différence, c'est que moi, je n'exerce pas la sexualité génitale. Voilà.
Voilà, il n'y a pas d'intimité conjugale, même si...
Il n'y a pas d'intimité, voilà.
Parce que quand c'est exprimé comme ça, sexualité génitale, ça fait un peu clinicien, mais...
Oui, c'est un peu clinicien, c'est vrai. Pardon.
Voilà. Est-ce que vous désolez, parce que on imagine que votre cœur d'artiste fait que vous voulez constamment, et probablement que vous avez en partie donné votre vie pour ça, pour essayer de faire en sorte que tout le monde essaye de comprendre en fait ce que l'Église essaye de crier, même quand elle n'est pas entendue, écoutée, ou qu'on se bouche les oreilles. Est-ce que vous vous désolez parfois de ce fossé, je le disais en introduction, qu'il y a encore autour de, comme vous le disiez, cette encyclique, et puis après toute la théologie du corps de Jean-Paul II et le grand public. C'est quelque chose que vous constatez, quelle réaction, je ne sais pas, ça suscite dans votre cœur?
La réaction que ça suscite, elle est double. C'est-à-dire, premièrement, évidemment, je m'en désole parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont générées tout simplement par le péché, pour être clair. C'est-à-dire le refus de vivre dépendant de Dieu, tout simplement. Voilà. Mais donc, je m'en désole évidemment. Mais quelque part, je suis lucide sur le fait que je ne crois pas que c'est un effort de communication avec des super stratégies qui va faire qu'on va le comprendre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a ce fossé, quelque part, il vient du péché, tout simplement. Enfin, il y a une réalité ontologique qui fait que...
Quoi, il y a une espèce d'aveuglement, c'est ça, qui serait...
C'est un aveuglement de nos cœurs, et moi la première. Donc on est tous en chemin, vous voyez. Donc bien sûr, je m'en désole. En même temps, je suis pleine d'espérance, parce qu'il y a un temps pour tout, et un temps pour chacun, pour se retourner vers ce qui est vrai. Et on le sait au fond de nous. Je rencontre des tas de gens qui ont soif de vérité, en fait.
Je vois le temps qui passe, donc j'aimerais quand même qu'on parle un peu de votre spectacle. Spectacle que vous n'êtes pas produit toute seule, loin s'en faut, mais en tout cas aujourd'hui c'est vous qui le représentez. Donc c'est le Cantique des Cantiques, chant pour sa plénitude, c'est le sous-titre. Donc c'est une création poétique et musicale. Il est dit la chose suivante, d'ombre, de lumière, d'image. À propos de ce texte, peut-être pouvez-vous commencer par présenter le Cantique des Cantiques, pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis nous dire en quelques mots ce qu'est ce spectacle.
Ok. Alors, le Cantique des Cantiques, c'est un petit livre qui est au cœur de la Bible, un petit livre de 8 chapitres, un poème qui est assez étonnant, qui a posé question d'ailleurs pour les juifs qui se demandaient, mais quel livre, les juifs et les chrétiens qui se sont demandés à peu près au même moment, quel livre vont rentrer dans notre corpus d'écriture sainte, dans notre canon d'écriture. Et il a posé problème parce qu'en fait, il n'y a pas le nom de Dieu, ou à peine le nom de Dieu qui est évoqué. Il est évoqué à la fin et en abrégé. Au moment où il est dit cette fameuse phrase, l'amour, ses flèches sont des flèches de feu, une flamme de Yah. Yah, c'est le nom de Dieu en abrégé. Alors en fait, c'est un petit livre qui parle, c'est un chant d'amour entre un homme et une femme, tout simplement. Mais tellement profond d'une certaine manière, tellement vrai, tellement profond qu'en fait, il peut en même temps évoquer l'amour de Dieu pour sa création. Et c'est ça la magie de ce petit livre, c'est qu'il a l'air de parler uniquement de l'amour d'un homme et d'une femme, mais il en parle à une telle profondeur qu'il évoque l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, pour son peuple Israël, pour l'Église, etc. Voilà. Alors nous, on a fait le pari de prendre tout le texte, de donner l'intégrale du cantique, ce qui est un peu fou, honnêtement, et de faire entrer les gens qui sont souvent pas habitués déjà au langage biblique, mais aussi souvent pas habitués à la poésie, qui considèrent parfois que la poésie c'est pour les rayons des bibliothèques ou bien c'est pour l'école, mais alors que la poésie c'est un cœur qui aime tout simplement et qui parle dans l'amour. En fait c'est tout simple, c'est la vie. Et on a fait ce pari-là de faire entrer les gens dans ce texte. Et du coup, de leur faire respirer le parfum de ce monde. Et pour ça, y a divers langages. Il y a des images, parce que la poésie est image. Il y a de la musique, parce que la poésie est musique. Et puis, il y a le texte. Voilà, très vite, dit. Ce que je peux dire.
Peut-être pour finir, ma dernière question, ça sera, c'est évidemment, alors là, ça devient presque mission impossible de nous faire voir un petit peu à la radio ce spectacle. En tout cas, vous utilisez pour ça, il y a beaucoup de, comment dire, d'ombres chinoises, si j'ai bien compris, l'utilisation du voile, de musique orientale. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu ce qui est donné à voir?
Écoutez, très rapidement, comme le Cantique des Cantiques parle d'un homme et d'une femme, mais cet homme, bien sûr, il est... D'abord, c'est surtout une femme qui parle. Alors, c'est pas parce que les femmes parlent beaucoup, peut-être, un peu d'humour, mais je crois plus profondément...
Ou que les hommes ne sont pas très bavards, oui.
Peut-être, exactement. Mais il y a dans cette dimension de l'homme une sorte de secret, de mystère, d'absence aussi, qui parle aussi de la présence divine. Du coup, pour figurer cette présence masculine un peu mystérieuse qui peut évoquer Dieu aussi, ou le Christ... On a choisi l'ombre chinoise et un certain type de projection vidéo qui montre une dissymétrie entre la présence de la femme, où nous on est trois femmes sur scène qui sont trois aspects de la bien-aimée, Et puis l'homme, c'est plutôt du ressort de l'ombre chinoise, d'une certaine projection vidéo, qui évoque la présence divine. Voilà. La musique orientale, bon, il y a toutes sortes de musiques, mais il y a divers orients qui sont évoqués par la musique, parce que le Cantique des Cantiques vient du peuple juif, évidemment. Mais il y a aussi des influences égyptiennes et tout ça, donc c'est... Voilà un petit peu ce qu'il y a.
Voilà, un spectacle à voir et à retrouver. On va finir cette émission qui est par quelques informations pratiques. Pour ce spectacle qui est donné donc le 12 octobre prochain donc à l'Orangerie du Caouzou, donc à Toulouse, c'est à 20h30. Voilà, je ne peux pas donner l'adresse de réservation parce qu'elle est un petit peu compliquée, mais je laisse les auditeurs appeler peut-être la radio s'ils veulent avoir plus d'informations. Et donc cette journée colloque le lendemain, le 13 octobre 2018, donc évidemment cette année, salle Castelbou, les chrétiens vivent d'amour et de sexualité, rencontres des mouvements et associations et conférences et tables rondes organisées donc entre autres par les AFC conjointement entre autres avec le diocèse de Toulouse. Merci beaucoup à nos invités d'être venus ce matin nous parler de ces sujets importants. Ça a été l'occasion, même peut-être un peu trop rapidement, de parler d'Humanévité et des 50 ans de ce texte. On y reviendra probablement en d'autres circonstances. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.